France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1929, âgée alors seulement de 19 ans, Elsa Baren remporte le prix de Rome de composition musicale pour sa cantate « La Vierge guerrière ». Cette même cantate est aujourd'hui introuvable, impossible à écouter pour ceux et celles qui n'ont pas la chance d'en posséder un très vieil enregistrement, si tant est qu'il en existe encore. C'est le symbole d'un talent et d'un destin exceptionnel, aujourd'hui tombé presque inexplicablement dans l'oubli. Elsa Baren n'était pas seulement une compositrice et une musicienne prodigieuse, mais aussi une résistante. Elle fonde en 1941 le Front National des Musiciens, avec Roger Desormières et Louis Duret. Rattachée au mouvement de résistance du Parti communiste français, ce groupement fait tout pour lutter contre la propagande nazie, notamment dans le domaine de la musique. À la Libération, elle devient une personnalité en vogue du milieu intellectuel communiste, écrivant pour l'Humanité et Ce Soir, avant de progressivement disparaître et de rompre avec le parti en 1949. Elle est également connue pour son travail sur la pédagogie et l'enseignement de la musique, qu'elle évoque entre autres dans ce numéro de Dialogue et musique de Georges Charbonnier, diffusé pour la première fois le 22 septembre 1954. Magie des archives, nous avons l'enregistrement non seulement de l'émission elle-même, mais également des morceaux d'entretien qui n'ont pas été utilisés. Vous entendrez donc d'abord l'émission entière, suivie du reste de l'entretien. Un document d'exception donc, donnant la parole à une compositrice prodigieuse et à une brillante pédagogue, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Dialogue et musique, une émission de Georges Charbonnier, consacrée aux compositeurs contemporains. Aujourd'hui, Elsa Baren.
Elsa Baren, comment définiriez-vous vos limites? Par quoi vous sentez-vous entravée? Je ne parle naturellement pas d'entrave matérielle.
Par le temps. Et puis aussi par ma personnalité à moi. Je suis très paresseuse de nature. Je reste toujours dans des choses qui sont très fumeuses, mais quand, s'il fallait vraiment les réaliser, peut-être est-ce moi qui prends le prétexte que je n'ai pas le temps. C'est très possible.
Et
c'est probable même.
Pouvez-vous préciser encore davantage? Quelle chose aimeriez-vous faire ou auriez-vous aimé faire? À quel moment de votre activité vous dites-vous, là, j'aurais pu pousser dans telle direction?
Eh bien, plus particulièrement ces années-ci, il me semble que j'ai perdu beaucoup de temps. J'étais très enfermée et très heureuse et très reconnaissante de l'enseignement qui m'a été donné, qui est un enseignement très bon. J'étais l'élève de Paul Lucas, évidemment, et je lui dois tout, ou beaucoup. Mais quand je vois notre époque aller si vite pour la musique, je me demande si je n'ai pas raté beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses desquelles j'aurais dû tâter, comme tout le monde, et je n'ai pas fait, par paresse, par indifférence, par toutes sortes de choses comme ça.
Lesquelles, par exemple?
Par exemple, la musique d'Houston, il était nécessaire. Tout le monde, en 14 ou en 1920, connaissait Schoenberg, pas moi. C'est vrai que moi, j'avais 10 ans à ce moment-là, faut pas exagérer. plus tard, j'aurais pu regarder ces musiques, les considérer de plus près, et peut-être... Il puisait des choses qui auraient été intéressantes. Maintenant, c'est tard. J'ai pas l'impression que je puisse m'y mettre parce que maintenant, je manque de temps.
Et vous semble-t-il que l'étude des douze tons vous aurait permis d'exprimer des choses que vous ne pouvez pas dire autrement? Autrement dit, vous semble-t-il que le mode d'expression musicale qui comporte douze tons permet de dire des choses tout à fait spécifiques,
non.
Des choses qui ne concernent que notre époque?
Oui, peut-être. Mais, à vrai dire, il y a quelque chose de plus curieux, n'est-ce pas? Il est bien certain que je manque de culture générale dans l'ensemble. Alors, la culture musicale, évidemment, elle aurait dû être beaucoup plus poussée. Je ne l'ai pas fait, c'est un tort. Et j'aurais dû connaître aussi certaines musiques chinoises. J'aurais dû connaître les musiques extrêmes orientales. Je ne connais pas du tout le plein chant. Je ne connais pas le grégorien, par exemple. Mais ça me manque peut-être. Je n'en sais rien, probablement. Ce serait à refaire, je ne ferais pas comme j'ai fait, certainement. J'essaierai de plus connaître de choses et de connaître plus de toutes sortes de musiques, et je me suis beaucoup cantonnée. J'ai vécu sur une espèce de vague acquis, n'est-ce pas, qui est très insuffisant. Et maintenant, j'en souffre.
C'est que cela, il y a une chose qui me paraît très curieuse, n'est-ce pas? Le compositeur a une émotion musicale à exprimer. Comment peut-il se dire « Je n'ai pas les moyens nécessaires pour exprimer cette émotion musicale » Ça me paraît extraordinaire qu'on puisse à la fois avoir quelque chose à exprimer, qu'on puisse l'exprimer puisque vous écrivez de la musique,
oui.
Et que l'on puisse dire « Il me manque des armes ».
Oui, c'est à double tranchant, n'est-ce pas? Je m'exprime sans aller beaucoup plus loin, sans réfléchir trop à ces questions, au moment précis où j'écris, parce qu'autrement je ne pourrais pas, on ne pourrait pas travailler si on réfléchissait trop au moment précis où on fait une œuvre quelconque. Mais après, entre-temps, quand on s'arrête ou quand on a fini quelque chose, d'abord on regrette de l'avoir fait comme on l'a fait, ça c'est bien normal. Et ensuite, il vous semble toujours que peut-être il y avait des tas de directions qui n'ont pas été prises, qui auraient pu vous aider. C'est ça que je trouve.
Je voudrais essayer tout de même de vous demander de préciser l'idée que vous avez émise tout à l'heure. L'étude des 12 tons, l'emploi des 12 tons, vous semble-t-il, permet de dire des choses qu'on ne peut pas dire autrement. Lesquelles?
C'est très compliqué. Alors, pour répondre à ça, je parlais des 12 tons tout à l'heure parce que les 12 tons, c'est un mode d'écriture, n'est-ce pas, qui a certainement des choses très bien. Je ne crois pas que j'aurais pu peut-être en tirer beaucoup plus, même en ne le connaissant pas. Mais je devais le connaître tout de même. Comme on doit aussi s'intéresser, je crois maintenant, à la musique concrète, même si c'est pour la combattre, il faut tout de même la connaître. On ne peut pas combattre quelque chose ou négliger quelque chose que l'on ne connaît pas. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ça qui est le tort. Maintenant que la musique 12 tons m'ait apporté quelque chose, ça j'en sais rien.
Et à la musique en général?
À la musique en général, ça a apporté quelque chose, probablement. Oh oui. Quand on serait avec la personnalité de Berg. Forcément.
Mais toute l'école française...
Alors, toute l'école française passe à côté de cette chose-là, mais ça... C'est une direction qui, comment dirais-je, tout à fait différente pour des tas de raisons, et qui probablement n'en a pas souffert. Je parle des 12 tons parce que l'occasion s'en présente là aujourd'hui, mais au fond, vous savez, je n'y rêve pas la nuit, et puis ça ne m'empêche pas de dormir.
Vous pensez...
Mais au moment où la musique s'internationalise de plus en plus, c'est-à-dire où les points de contact sont de plus en plus nombreux entre les différentes races et les différentes nationalités... D'ailleurs, il y a beaucoup de musiciens français qui l'ont parfaitement senti. On a, je crois, intérêt plus que jamais à connaître ce qui se fait ailleurs et à essayer de voir comment ça s'est fait dans toutes les époques, d'ailleurs, toutes ces choses-là, ces contacts-là. Mais plus, c'est plus évident maintenant où on entend plus de musique. Les gens de temps jadis ne se connaissaient pas entre eux. Ils travaillaient dans leur coin, ils ne se connaissaient pas entre eux. C'est nous qui les comparons maintenant les uns avec les autres. Mais nous autres qui avons des points de comparaison tout de suite, avec des gens vivants de notre temps, nous devons en profiter, je crois. Nous y avons tout intérêt.
Lorsque vous considérez l'ensemble de vos œuvres, en partant de la première...
Oh, j'ai honte. Première chose. D'abord, et puis...
Quelles préoccupations successives retrouvez-vous?
Oh, d'abord, fort longtemps, aucune préoccupation. Vraiment, très longtemps. J'étais vraiment dans l'œuf, jusqu'à une époque incroyable de ma vie. Mais je crois que la grande préoccupation, c'est d'essayer de chanter l'amour autant que possible, enfin sous toutes ses formes, pas l'amour humain entre hommes et femmes, parce que ça, évidemment, mais enfin l'amour universel, et au fond, j'étais tellement heureuse d'avoir trouvé le poème d'Éluard, poésie ininterrompue. Éluard a été assez gentil un jour où j'avais une commande, comme ça je ne savais vraiment pas quoi faire, pas quoi prendre, pas quoi... sur quoi travailler, et j'ai couru chez Éluard qui m'a dit, écoutez, je vous donnerai bien ça, mais alors il faudrait couper beaucoup. Alors, il a coupé pour moi, et on a sorti de ça, enfin, il a sorti lui-même de cet énorme poème merveilleux que vous connaissez certainement, d'étranges qui m'ont permis de travailler, et j'étais si heureuse d'y travailler, c'était quelque chose d'incroyable. Alors là, j'ai eu vraiment l'impression que j'avais un sujet qui, pour une fois, me plaisait, parce qu'on n'a pas toujours des sujets qui vous plaisent, on vous impose souvent des choses, c'est plus ou moins... Vous savez, c'est comme le vin, il y a des bonnes années puis des mauvaises années. Mais ça, vraiment, c'était une bonne année. C'est un long poème, d'abord, Éluard, comme vous savez, fait partir ce poème de la solitude de l'homme. Ensuite, on passe à l'amour humain entre homme et femme, et les deux, l'homme et la femme, vont, avec ce support de leur amour personnel, à l'amour universel. C'est-à-dire l'homme chante seul.
caresse infinie, pour qu'elle soit comme une plaine, visible de partout, pour qu'elle soit comme une pluie, miraculeuse sans nuage, comme une pluie entre deux feux, comme une larme entre deux rires. Pour qu'elle soit neige bénie, sous l'aile tiède d'un oiseau, lorsque le sang coule plus vite dans les veines du vent nouveau, pour que ses paupières ouvertes approfondissent la lumière, pour que sa bouche et son silence intelligible se comprennent, que ses mains posent le pomme sur chaque tête qui s'éveille, pour que les lignes de ses mains se continuent dans d'autres mains. Je fortifierai mon délire.
La femme est seule, elle se plaint de sa solitude, elle se sent à la fois sa mère et son enfant, c'est-à-dire qu'elle se sent une seule personne. Et là, elle est malheureuse, jusqu'à ce qu'elle connaisse l'amour avec l'homme. Ce sont en tout cas les trois personnages qui chantent, c'est l'homme et la femme réconciliés dans l'amour universel. L'auteur fait une apparition et tout le monde trouve que la vie vaut la peine d'être vécue, enfin qu'il faut être fidèle à la vie. Que...
La jeunesse est un trésor, la vieillesse est un trésor, l'océan est un trésor et la terre mine. L'hiver est une fourrure, il est une boisson fraîche, et l'automne est l'accueil.
Et dans l'ordre des préoccupations techniques, quelles préoccupations techniques retrouvez-vous dans votre œuvre ?
Ah, c'est là où je trouve ma paresse. C'est là où je trouve ma paresse. Tout simplement. Je fais comme je peux.
Je n'arrive pas à vous croire lorsque vous dites que vous n'avez pas le temps de penser à ce que vous faites.
Non, au moment où je travaille, je n'ai pas souvent le temps.
Il y a tout de même un retour.
Pas le temps, il faut vous livrer la commande et puis...
Il y a sûrement un retour au moment où vous venez d'entendre, au moment où vous venez de faire, un retour sur l'œuvre et qui fait que vous portez un jugement sur elle.
Ah oui, je suis généralement très dégoûtée.
Mais ce jugement est sûrement utile à l'œuvre suivante.
Peut-être. Oui, il vaudrait mieux. Ça n'arrive peut-être pas toujours.
Par exemple, si vous reprenez vos œuvres dans l'ordre chronologique.
Ah, c'est très curieux. Quelquefois, je ressors des vieux papiers, n'est-ce pas, que j'ai gardés pour le principe, et je me dis, tiens, c'était pas si mal que ça. Et généralement, c'est des choses que j'ai considérées comme rien du tout. Enfin, c'est très relatif, n'est-ce pas? Vraiment, je dis ça sans faire de bluff, sans vouloir faire la modeste. C'est absolument vrai, j'ai toujours l'impression que je pourrais faire vraiment beaucoup mieux.
Actuellement, quels seraient vos désirs en musique?
Je voudrais faire un opéra. Oui, je voudrais faire un opéra, mais je manque de livret, je voudrais un beau livret.
Et que demanderiez-vous à un sujet de l'une?
Eh bien, il y a beaucoup à faire avec les voix. Il est certain que c'est une chose très passionnante, que la voix humaine. Et je voudrais faire quelque chose pour les voix.
Et que demanderiez-vous au livret?
Oh, je demanderais au livret simplement de me porter un peu. De me porter. Je demanderais un sujet assez âpre. Si j'osais m'attaquer à un grand sujet tragique, mais alors, transposer dans l'époque moderne, c'est extrêmement difficile, parce que l'époque moderne entraîne alors des choses de mise en scène et de choses comme ça qui sont toujours gênantes. Je voudrais pas tomber dans le réalisme, dans toutes ces choses, c'est très difficile.
Mais un sujet de notre temps.
Oui, une situation tragique dans notre époque.
Vous pensez que c'est la seule façon de toucher?
Non, je ne pense pas que c'est la seule façon. Il me semble que j'aimerais faire ça, simplement.
Plusieurs compositeurs ont dit devant ce micro que le théâtre lyrique leur paraissait soit dans une impasse, soit même mort.
Il est bien certain que le théâtre lyrique, on est beaucoup plus exigeant pour lui maintenant.
À quoi attribuez-vous
ça? J'attribue ça à des tas de choses. D'abord à la grande influence des énormes possibilités de connaissances que nous avons maintenant, que nous n'avions pas jadis. On est beaucoup plus difficile pour le théâtre maintenant. On est très difficile pour le théâtre parce que on a beaucoup de possibilités de voyage, on a les possibilités d'évasion presque matérialisées, si je peux dire, vous comprenez? Le cinéma, c'est tout de même quelque chose d'énorme. Et alors le théâtre, on demande beaucoup. Il ne donne pas toujours. Puis alors il y a aussi la limitation des voix, n'est-ce pas? Dans la musique symphonique, vous pouvez écrire tout ce qui vous passe par la tête, il n'y a pas de limitation technique, pour ainsi dire, maintenant. Mais dans les voix, il y a toujours une limitation. La voix humaine, pour l'instant, ne pourrait pas se plier à des exigences. Regardez le mal qu'on a, par exemple, ici, à Montévoetsec. Je dis ici, mais je dis aussi bien peut-être dans d'autres pays encore, pas en Allemagne, si vous voulez, mais ailleurs. Alors, on ne peut pas se plier tout ce qui vous passe par la tête.
Oui, mais vous avez dit vous-même, pas en Allemagne.
Oui, je dis pas en Allemagne, parce que les Allemands, ça, c'est les Allemands. C'est pas...
Il y a des pays où...
Bien sûr, il y a des pays, mais enfin, pas ici, en tout cas.
Mais alors ça, c'est peut-être un défaut d'éducation technique des chanteurs. Ici, c'est tout.
Oh, ma réponse sera vague.
Personne ne me fournirait une réponse précise sur ce sujet.
Bien entendu.
L'émission de Georges Charbonnier, dialogue et musique, était consacré aujourd'hui à Elsa Barren.
Non, coupez une seconde.
C'est pas bien.
Si, si. Elsa Barren, en 1954, quelles vous paraissent être les conditions qu'il convient de réunir dans l'enseignement de la musique?
Là, vous me posez une question vraiment très compliquée, à laquelle on ne peut pas répondre si facilement et comme ça à l'improviste. Mais la chose qui me paraît essentielle, je ne sais pas si c'est praticable, il est probable que si c'était faisable, ça sera déjà fait. Je trouve regrettable, par exemple, que, au conservatoire, puisque au fond c'est de ça dont vous voulez me faire parler, c'est...
Pas obligatoirement.
Bon, enfin, mettons, n'est-ce pas, puisque c'est là où, d'où partent tout de même tous les musiciens français. Eh bien, moi personnellement, je regrette la forme du concours. Je pense que le concours est une chose qui est très souvent bonne et qui est très souvent mauvaise. Très souvent mauvaise parce que un certificat de scolarité, par exemple, voilà un enfant qui fait la classe d'harmonie, mettons. Et la classe d'harmonie, eh bien, il peut faire de très bons devoirs tout le long de son année et puis il a une base qui ne lui réussit pas le jour du concours et c'est loupé. Mais ça, vous me direz, c'est l'histoire de tous les concours, après tout. Quand même, je crois que dans certains pays, par exemple en Europe centrale ou ailleurs, on ne délivre pas de premier prix ou de choses comme ça. Et on donne un certificat de scolarité à la fin des études. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien.
Et dans l'ordre des connaissances générales, des connaissances techniques, vous semble-t-il qu'il y a un certain nombre de choses qu'il convient plus particulièrement à notre époque d'apporter aux élèves?
Oui. Mais remarquez que j'ai beaucoup pensé ça aussi, que par exemple, il y avait des limitations à notre enseignement actuel. Et puis, j'y ai réfléchi encore depuis. Et en réfléchissant, j'ai pensé, il y a bien peu de temps, il faut se mettre aussi à la place d'un enfant, n'est-ce pas ? Par exemple, je souhaiterais, je reviens toujours à ces douze-tons, ça devient un peu une plaisanterie, si les douze-tons m'entendent, ils seront furieux, parce que ça n'a pas d'importance. Oui. Nous ne connaissons pas la technique douze-tons, nous autres, les anciens, les professeurs du conservatoire. Nous la connaissons peut-être peu ou prou. Et si nous avons des jeunes élèves qui, eux, en ont tâté, s'y intéressent, et vraiment, ils mordent, n'est-ce pas? Ça nous est très difficile de les juger. Or, oui, je vous ai dit ça une fois, mais... Oh, ce que je bafouille, c'est atroce.
Non, c'est très bien.
C'est atroce.
Non, on arrangera.
Oh ! Comment voulez-vous qu'ils aient le temps ? Ils connaissent déjà peu. Ils ont déjà peu de culture classique, n'est-ce pas ? Un jeune garçon qui a 18 ans, 17 ans, qui fait la classe d'harmonie, tout de même, il est normal qu'on lui apprenne d'abord à manœuvrer la tonalité, puisque nous vivons encore là-dedans. Et comment est-ce que l'on pourrait faire ? Étant donné, là où il arrive, ou plutôt là d'où il part quand il part de l'école, comment pourrait-on encore lui donner des rudiments d'une technique aussi compliquée que les 12 tons, par exemple? Évidemment, j'ai fait là un rêve fou, c'est absolument impossible, il n'a pas le temps. Voilà un gosse qui fait une classe d'harmonie, il va là à la culture générale, c'est d'ailleurs très très bien, c'est très bien, parce que de notre temps, on ne faisait pas la culture générale au conservatoire. Ça donne des résultats que vous pouvez en juger aujourd'hui, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, il fait l'histoire de la musique, c'est très bien. Il fait toutes sortes de choses. Il a peut-être la classe de direction d'orchestre, il a d'autres classes. Il fait la classe d'analyse esthétique chez M. Messiaen. Il va chez M. Roland Manuel pour apprendre un peu ce que c'est que la musique du 15e. Bon, et alors, la place de coller les 12 tons dans tout ça, il ne l'a pas.
Mais
si c'est avec ça, il faut qu'il gagne sa vie un peu.
Mais si c'est le langage du temps.
Non, ce n'est pas le langage du temps. C'est le langage d'une période et ce n'est pas le langage de l'avenir. On n'en sait rien, en tout cas.
Alors, faut-il penser que tous les atonalistes sont des autodidactes?
Oh, il faut penser que les atonalistes, évidemment, sont une bande un peu à part, et qui font un peu bande à part, et que très souvent, on met injustement à part. Mais pour en revenir à l'enseignement du conservatoire, comment voulez-vous qu'on place tout ça? C'est impossible. Ça me paraît difficile.
En élaguant, justement, dans ces choses que l'on apprend.
Oui, mais j'ai beaucoup repensé à cette question. Il n'y a pas grand-chose à élaguer, finalement. Vous savez, on apprend le nécessaire. On ne fait pas de folie. On n'a pas le temps non plus, là.
Et sur le plan de la technique, vous semble-t-il qu'il conviendrait d'apporter des choses sur le plan de la technique instrumentale, puisque vous êtes professeur
de... je crois que c'est déjà fait, puisque...
Puisque vous êtes professeur de déchiffrage.
Oui.
C'est...
Je vous répète, j'ai des pianistes et la question est réglée au point de vue technique. Moi, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas pianiste.
Oui, mais vous constatez les effets.
Je constate simplement que... Une chose très curieuse, d'ailleurs. Les élèves prouvent qu'elles ont vraiment bien du temps en ce sens qu'elles n'ont aucun sens visuel, généralement. Moi, j'ai une classe de lecture, pour en revenir toujours à mon histoire. Eh bien, elles ne savent pas lire la musique. Elles ne peuvent pas y arriver. Elles ont du mal, enfin, pour tout dire. Simplement parce que la musique leur est servie déjà sous la forme sonore, généralement. Elles écoutent la radio, elles écoutent des disques, n'est-ce pas? Mais de mon temps, quand j'étais petite, eh bien, si je voulais connaître une œuvre, il fallait que je l'achète et que je la lise moi-même. Et ça leur manque totalement. Je crois qu'il y a une grande part de ça.
La facilité
est un grave obstacle. Lecture, oui. La facilité de lecture leur manque. Ils ont les yeux qui ne marchent pas pour la musique.
Mais les yeux ou les doigts?
Les yeux. Les yeux. Plus que les doigts ça va très bien. On leur joue deux mesures de... C'est pas énervé, quelquefois je suis très souvent énervé, comme vous imaginez. Eh bien, je leur dis, ah, écoutez, laissez-moi... Bon, on joue les deux mesures de... assez compliquées, par exemple deux mesures de Messiaen ou d'un prélude de Messiaen, quelque chose comme ça. Eh bien... Elle le redonne immédiatement, elle le rejoue immédiatement. Elles ne sont pas du tout choquées par les choses d'oreille. Les choses d'oreille ne les gênent pas du tout. C'est une question d'œil. C'est très drôle.
Alors là, ce ne serait qu'un manque d'habitude.
C'est un que manque le travail de pratique, pourrait compenser un manque de pratique, oui.
Mais vous paraît-il exact que, ainsi qu'on l'entend affirmer couramment maintenant, les écoles d'Europe centrale, notamment sur le plan de la technique instrumentale, présentent une grande supériorité sur l'école française? C'est une chose que l'on entend couramment maintenant. Je ne sais pas si la critique le dit, mais il est tout à fait sûr qu'au sortir d'un concert, les auditeurs, ou une partie des auditeurs, le dit ou le pense.
Il y a de très beaux groupements de quatuors, par exemple, en Europe centrale. Ils sont manifestement épatants, n'est-ce pas? Bien sûr.
Mais je pensais aux solistes.
Vous pensiez aux solistes. Les solistes, je les connais moins. Je pensais surtout aux groupements de quatuors. Je pensais surtout à la musique de chambre.
Et à quoi cela tient-il? Parce que un quatuor, c'est quatre personnes, mais quatre personnes, on peut les isoler toutes les quatre. Et si le quatuor marche, c'est que la technique de chacun d'eux marche.
Ah oui, mais c'est une technique particulière. C'est la technique de quatuor est une technique absolument qui n'a aucun rapport avec la technique du virtuose. Je trouve admirable, par exemple, les quatuors hongrois. Ils sont merveilleux. J'imagine que c'est la même chose en Tchécoslovaquie ou dans tous ces pays. Je ne dis pas ça spécialement pour la Hongrie.
Oui, mais là, il est tout de même... On peut tout de même penser que, vous parliez de la Hongrie, qu'en Hongrie, les hommes et les femmes qui naissent n'ont pas des possibilités au départ. N'ont pas au départ des possibilités physiologiques supérieures aux nôtres.
Je ne sais pas. Je ne me rends pas compte.
C'est assez peu probable. Or, le résultat technique paraît très supérieur. Pourquoi?
Il y a une école, probablement. Vous savez, la roue tourne. La roue tourne peut-être. La roue tourne peut-être. Pourquoi est-ce que nous aurions eu toujours... Nous avons eu de merveilleuses écoles de piano, jadis. Nous en avons encore qui sont excellentes. Mais maintenant, le flambeau est passé à côté, probablement, chez les soviétiques ou chez les...
Alors, est-ce qu'il vous paraît que... Vous semble-t-il qu'il y ait des raisons techniques? Est-ce que...
Ah, je ne sais pas.
Est-ce qu'ils ont trouvé un enseignement différent? Est-ce qu'ils ont trouvé une technique différente?
Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous expliquer. Vraiment,
Je pense simplement aux résultats des concours internationaux.
Oui, il est certain qu'on est battu à plat de couture par les soviétiques ou par les grands américains.
Qui marque, contrairement à ce qui est affirmé couramment par complaisance, le déclin des écoles françaises et pas du tout leur épanouissement, au moins pour certains instruments. Je ne parlerai pas des vins et je ne parle pas des cuivres.
Oh, parfaitement.
N'est-ce pas? Je ne parle pas du tout des cuivres et des bois.
Oui, bien.
Je pense aux techniques du clavier et au violon et aux cordes.
Oui.
Eh bien, nous sommes écrasés dans les concours internationaux. Nous sommes écrasés par les Américains, tout autant que par les Russes.
Oui,
c'est possible. Les deux nous battent.
C'est évident, mais vous dire pourquoi, je n'en sais rien.
Et je sais bien que, à propos du clavier, on peut immédiatement, à n'importe quel nom, opposer le nom d'Ivnat, bien sûr. Lorsqu'il s'agit des cordes, à n'importe quel nom, on peut opposer le nom de Francescatti, mais Ce sont des exemples extrêmement isolés, oui. Alors que la plupart des concours internationaux, dans la plupart des concours internationaux, Yves Nat et Francescati vont naturellement, ne se présentent naturellement pas, ou ils n'auront absolument aucun titre pour le faire. Ce sont des jeunes qui y vont.
Oui.
Eh bien, ces jeunes ne montrent que des infériorités.
Ne montrent pas toujours que des infériorités. Il y a par exemple, il y a Eugénie.
Ou tout au moins, ces jeunes montrent leur infériorité.
Ils sont dans la moyenne, souvent inférieurs, oui. Mais oui, et alors la moyenne de ces pays qui ne sont pas là, ici, n'est-ce pas, ont une moyenne très supérieure à notre moyenne. C'est ça qui est extraordinaire. Qu'il y ait des grands sujets, il y en a toujours partout. Mais ce sont les moyennes qui sont
fortes.
Voilà,
mais ce n'est pas tellement le cas des grands sujets que je considérais. Et puis enfin, il y a tout de même cette disparité extraordinaire entre les bois et les cuivres d'une part, où la France ne marque aucune infériorité, bien au contraire.
C'est admirable.
Et puis alors, les cordes et le clavier...
Bon, il y a des grands pianistes, il y a des grands instrumentistes, il y a Maréchal, il y a des tas de gens qui sont merveilleux, mais la grande moyenne n'est pas fameuse. Ça, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas vous dire.
Vous ne voyez pas une méthode d'enseignement qui permettrait de remédier à cet état de choses?
Vous exagérez un peu. Moi, je ne veux pas répondre là-dessus, mon cher. Ça, non, il n'y a rien à faire. Vous ne m'aurez pas là-dessus. Pas la peine.
Bon, alors coupez une seconde.
Oui, ça alors, ça, vous allez me faire des coupures là-dedans, j'espère.
Ah, mais je pourrais...
Il n'y a pas de diplôme exigé.
Allez. Ça tourne? Bon, alors allez-y.
Oui, c'est ce que je disais. C'est pourquoi je défendrai jusqu'à ma mort l'enseignement du conservatoire. Pas parce que j'y suis, croyez-moi bien, mais simplement parce qu'il fait, et il faudrait qu'il fasse de plus en plus, obstruction à l'enseignement privé de la musique. N'importe qui maintenant, et comme toujours et comme dans le temps, s'intitule professeur de piano. Bon, la dernière des bonnes femmes qui ne sait pas quoi faire pour gagner sa vie se met professeur de piano. Mais c'est un scandale. Alors vous voyez là des générations de gosses dans un quartier, n'est-ce pas, qui tapent la prière d'une vierge ou autres horreurs, et personne ne pourra défendre à cette vieille dame de jouer ou de faire travailler cette musique, parce qu'il n'y a pas rien qui défende ça.
Parce que, écoutez, on entend ça très souvent, des enfants déplorer la manière dont on leur a appris le piano, la manière dont on leur a appris le violon. Et presque toujours, j'ai cru remarquer que ce qu'ils déploraient, c'est qu'on ne leur avait pas donné immédiatement, tout de suite, la familiarité des grandes œuvres.
Mais oui, oui, il y a beaucoup de choses. Oh, pourtant, on fait bien apprendre des sonates de Mozart, n'est-ce pas? On a à peine ouvert l'œil, on est à peine au monde qu'on vous colle sur une sonate de Mozart, il faut voir ce que ça donne. Ça prouve pas grand-chose. Non, je crois que le seul remède est de plus en plus étatiser ces enseignements-là. Vraiment, si dans l'école primaire, le travail est bien fait, vous savez, de l'enseignement de la musique, on peut avoir des résultats surprenants. On pourrait détecter les gosses doués, n'est-ce pas, et les diriger vers le conservatoire. Mais comment voulez-vous? Tout ça n'a jamais été vraiment très sérieusement organisé. Je ne jette la pierre à personne, vous pensez bien, mais il est bien certain qu'on a beaucoup de mal à organiser ces choses-là, c'est très compliqué. Et il y a une chose excellente, c'est que les conservatoires sont de plus en plus devenus, enfin, ils deviennent de plus en plus succursales du conservatoire de Paris. C'est la seule façon de s'en sortir.
Oui, de pousser
encore. Une école privée de musique, bon, elle est bien dirigée, tant mieux, elle est mal dirigée, tant pis. Personne n'y a rien à voir.
Oui, alors que sur l'enseignement,
c'est pas défendu.
Sur l'enseignement courant, l'État a un droit de regard.
Il faudrait.
Mais je veux dire que sur l'enseignement courant, l'état actuel des choses, que ce soit une école primaire, un lycée, l'État a un droit de regard.
L'État a un droit de regard, évidemment.
Et cet enseignement est si important que même si son droit de regard est limité, la sanction des examens, la sanction du brevet, du bachot, qui vient, fait que, obligatoirement, l'enseignement même privé doit présenter certaines qualités puisqu'il y a des résultats à obtenir.
C'est ça.
Mais est-ce que tout le mal ne vient pas alors de ce que l'enseignement de la musique est un peu considéré encore comme un luxe? On trouve très naturel chez nous d'enseigner la géographie aux enfants. Et la plupart des parents pensent encore qu'il est parfaitement superflu de leur enseigner la musique.
Oh non. Oh non. Oh non. Non, c'est-à-dire qu'on mélange un peu les questions et puis on croit qu'il suffit d'avoir appris ses notes. Est-ce que c'est qu'une croche, par exemple, pour être apte à aimer la musique.
Mais alors,
il faudrait toujours que l'enseignement soit double. Une part de technique qui est forcément très élémentaire, puisque comme vous le savez, la musique est un langage très compliqué. Il ne s'agit pas tout de même d'apprendre ses lettres, c'est tout de même tout autre chose. Vous comprenez? On apprend relativement vite à lire. On apprend plus difficilement à comprendre ce que c'est que la musique, n'est-ce pas?
Oui, mais il n'en reste pas moins. Tout à l'heure, vous m'avez arrêté, peut-être avais-je commis une erreur. Mais il est tout de même certain que des parents qui assistent qui jugent l'enseignement qu'on donne à leur fils ou à leur fille, ont pour première préoccupation qu'ils soient reçus à l'examen. La plupart des examens ne comportent pas de musique obligatoire, donc ça n'est pas important.
Oui,
apprends tes dates, apprends le violon si tu peux.
Oui, et puis comment voulez-vous qu'on apprenne le violon? Il ne faut pas oublier que c'est l'enseignement collectif, là, tout de même, n'est-ce pas? L'heure de musique consacrée, qui est dévolue aux enfants par semaine, comment voulez-vous qu'on s'en sorte, n'est-ce pas? C'est très peu de choses. Chaque programme tire à, chaque professeur spécial tire à soi. Le professeur de gymnastique exige, et il a raison, que les enfants remuent dans la cour et qu'ils prennent l'air. Le professeur de dessin exige que l'enfant ait un rudiment de dessin, il a raison. Le professeur de musique à son tour exige, etc. Tout le monde exige quelque chose, puis finalement... Non, ce que je pense qui serait vraiment très important, ça serait que les professeurs de chant des écoles primaires aient bien la sensation et la certitude, l'absolue certitude, que quand ils font travailler des enfants dans une école primaire, en les faisant chanter, en... travaillant, en essayant de comprendre s'ils ont de l'oreille, etc., on arrive à détecter des sujets intéressants, et que ceux-là, on puisse les envoyer au conservatoire, ou ailleurs, ou vous voudrez, dans leur conservatoire de province, et en faire des vrais musiciens. Il y a peut-être des tas de musiciens qui se perdent, n'est-ce pas, faute de connaissances, faute de moyens, faute de tout ça. C'est sûr, même.
Mais alors, ce problème de détection, s'il était résolu, amènerait-il à supprimer le concours d'entrée ou à le conserver?
Au contraire, oui, il faut bien le conserver.
Parce que vous étiez partisan de ne pas conserver le concours de sortie.
Pardon, le concours de sortie, c'est pas du tout pareil.
Mais j'entends bien. C'est pourquoi je vous demandais de préciser la chose.
Oh, c'est très difficile, après, de décider si un enfant est doué. Pas.
Oui, et plus le problème, s'élève, plus l'enseignement s'élève.
Oui, bien sûr.
Plus il est difficile de décider,
bien sûr.
C'est bien évident.
Puis alors, ça pose des problèmes matériels considérables, parce que le conservatoire est insuffisant déjà actuellement. Et M. Delvincourt se bat comme un lion pour obtenir des choses qui sont très, très importantes. Il le faut bien.
Ah ben, je pense
par exemple, il voudrait, je crois, qu'il y ait l'internat, que les élèves soient internes. Ça serait évidemment une chose excellente. Ça existe dans d'autres pays. Ça existe, je crois, avait-il dit, en Autriche ou quelque chose comme ça.
Mais ce qui exige des crédits considérables.
Bien sûr.
Et des bourses.
Vous voyez tous les problèmes que ça pose. C'est formidable.
Mais enfin, en ce moment, je ne dirais pas qu'on voit se généraliser, mais on voit tout de même naître et s'affirmer une méthode d'État qui consiste à attribuer aux étudiants un pré-salaire.
Oui.
Êtes-vous partisan d'étendre la chose au conservatoire?
Oh, ça, vraiment, c'est trop particulier, je ne connais pas assez ces questions. Ça, je ne me rends pas compte, j'en sais rien.
Il y a certaines grandes...
Qu'est-ce que vous appelez pré-salaire? Je ne sais pas ce que c'est.
Dans certaines grandes écoles,
oui.
Dans l'enseignement supérieur,
oui.
On attribue aux élèves des grandes écoles une somme qui représente un pré-salaire.
Oui.
Moyennant quoi l'étudiant s'engage une fois qu'il est... Moyennant quoi l'étudiant s'engage lorsqu'il est sorti de l'école à assumer certaines fonctions pendant un certain nombre d'années.
Ah, ça c'est très bien, évidemment. Ah oui, mais alors la grande... Oh, ça serait magnifique. Mais vous vous rendez compte du travail que ça représenterait là aussi comme organisation, étant donné que j'imagine que très nombreux sont ceux qui sortent de ce conservatoire et qui n'ont pas de débouchés. Ça, vous comprenez, on remue là des questions qui sont
bon,
si graves.
Si les élèves n'ont pas de débouchés en sortant du conservatoire, et c'est le cas pour un grand nombre, faut-il décourager rapidement
le Ah, fait-on? Moi, je trouve, oui. Il faut décourager celui qui vraiment n'est pas doué.
Le fait-on?
Bon, on le fait si on peut, on le fait si on a le courage, on le fait si on voit que c'est possible. C'est quelquefois impossible, n'est-ce pas? Il y a des parents qui veulent absolument que leurs enfants soient doués, mais ma foi, tant pis pour l'enfant, c'est triste.
Oui, mais évidemment, et cela suppose que si l'on décourage rapidement, cela suppose que l'on a prospecté beaucoup.
Et oui.
Et qu'avec une grande cruauté et impartialité,
on
décide des éléments que l'on conserve.
Et oui. C'est pas, ils sont très nombreux, toujours plus nombreux.
Coupé. Combien a-t-on en tout en
ça
ce moment?
Ça ne suffit pas. Flûte alors.
Merci beaucoup. Alors, vous...
Oui, alors, au moment où j'ai écrit cette cantate... C'est rien pour cette particulière, c'est idiot ce que je dis, ça ne fait rien. Oui, cette cantate était une commande de la radio l'année dernière pour la mort du Christ, pour être donnée à Pâques, qui s'appelle Les Simplets. Je vous en donne l'introduction au piano.
Je vais vous en jouer.
Je vais vous en jouer l'introduction au piano.
Voilà. Et pour la deuxième symphonie
Pour la deuxième symphonie, c'est autre chose. C'est une commande de l'État.
Voulez-vous reprendre?
Reprendre quoi?
Pour la deuxième
symphonie. Ah oui, alors pour la deuxième symphonie, c'est aussi une commande de l'État, cette fois de l'État d'ailleurs, en 1938. C'est une symphonie que j'ai écrite à ce moment-là.
Mais ça n'a pas d'importance. Bon.
Bon, c'est tout, hein?
Oui.
Alors, quand est-ce que vous faites votre montage? Ça m'inquiète maintenant.
Ça tourne? Bon, ça tourne. Voilà, approchez-vous. Elsa Baren, quel avenir vous paraît réservé à la musique concrète et quel apport? Quel peut être l'apport de cette musique?
Eh bien, à dire vrai, ce n'est pas exactement de la musique. À l'heure actuelle, ce n'est pas encore de la musique. C'est évidemment très important, je crois, parce que surtout, M. Pierre Schaeffer est en train de mettre à notre disposition un matériel qui est un peu en vrac, comme ça, qui paraît un peu biscornu, un peu curieux, mais qui n'en est pas moins d'une subtilité sonore très, très passionnante. Si, comme je le crois, les musiciens s'intéressent, non seulement s'intéressent, mais finissent par utiliser un certain nombre de procédés de M. Schaeffer, je crois que les oreilles humaines deviendront beaucoup plus subtiles et beaucoup plus affinées. Et que nos musiques anciennes à nous, que nous avons considérées si belles, si civilisées, etc., nous sembleront un brin barbare, mais sur le plan sonore seulement, bien sûr. Sur le plan sonore.
Mais pouvez-vous un peu préciser votre idée? Je crois qu'elle se préciserait toute seule pour l'auditeur. Si vous donniez auparavant une rapide définition de la musique concrète.
Mais non, au contraire, je vous dis, il n'y a pas actuellement, à mon sens, il n'y a pas de musique concrète. Je crois que M. Schaeffer triche un peu avec,
oui,
avec
alors,
lui-même.
Oui, alors qu'appelle-t-il musique
d'ailleurs,
concrète?
D'ailleurs, il est absolument d'accord, je crois, sur cette idée, et il ne s'en cache pas.
Bien, mais alors qu'appelle-t-il musique concrète et pourquoi cette musique ne mérite-t-elle
simplement
pas
pour, il fait différer l'appellation, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre la musique ordinaire, si vous voulez, comme il dit, et cette musique en question. Mais en réalité, ce n'est pas encore de la musique,
non,
à mon sens.
Dans quoi consiste ce qu'il appelle musique concrète?
Alors, ce qu'il appelle musique concrète, c'est un assemblage de... En somme, au lieu de... Comment pourrais-je vous dire? C'est très compliqué. Au lieu d'assembler la musique par l'imagination au départ, je crois qu'il se sert d'un matériel sonore, et c'est de là qu'il part pour faire de la musique, ou ce qu'il appelle musique actuellement. Il se sert d'une musique déjà concrétisée, déjà sonore. N'est-ce pas? C'est bien ça, au fond. Non, ce qui est le plus intéressant dans l'histoire, c'est vraiment ça. La matière de cette sonorité.
Non, il ne part pas d'un signe qui représente un son,
il part d'un son déjà fait. Déjà fait.
Et alors pourquoi vous semble-t-il que cette épithète concrète n'est pas méritée?
Mais si, elle est très méritée. C'est musique qui n'est pas méritée. Comprenez-vous?
Et alors, vous pensez-vous que musique le sera un jour?
Ah oui, je crois. Ah oui, je crois. Ah oui, je crois. C'est-à-dire que peut-être le trajet sera contraire. Si les musiciens s'en mêlent, le trajet peut très bien être contraire. C'est-à-dire que, avec ce qu'il nous a évoqué comme chose de sonorité, même peut-être avec, pourquoi pas avec les procédés de montage, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, c'est entièrement artificiel, son histoire. Pourquoi est-ce que de ce départ-là, on ne ferait pas le trajet contraire et on ne reviendrait pas à une élaboration de musique alors pensée, en se servant de ces matériaux-là?
Mais vous avez dit que l'oreille s'affinerait.
Oh oui.
Au contact de la musique concrète. L'oreille s'affinerait, c'est-à-dire qu'elle serait capable de percevoir, si je comprends bien, elle serait,
oui,
capable de percevoir et de différencier,
oui,
un nombre de sons de plus en plus grands.
Oui, oui, de plus en plus subtil, ou de plus en plus ténu, ou de plus en plus différent.
Et alors, faut-il penser que on irait jusqu'à ce point que les notes de la gamme actuelle ne seraient plus des points remarquables, mais simplement des sons comme les autres?
Peut-être bien. Pourquoi non? Ça n'aurait rien d'étrange. Ça n'aurait rien de si étrange. On a vécu, nous, une toute petite tranche de vie sur cette tonalité, sur la fameuse tonalité, et avant sur la modalité.
Parce qu'on entend encore, enfin on entend encore, on affirme actuellement que les notes de la gamme correspondent à des points remarquables parce qu'elles auraient des caractéristiques physiologiques déterminées,
oui,
plus humaines.
Oui, bien sûr. Seulement...
Les notes seraient celles que l'organisme humain, les notes que nous employons actuellement, seraient celles que l'organisme humain émet le plus volontiers. Mais Pensez-vous que c'est juste ou au contraire que c'est une habitude
qui mais oui, mentir. C'est-à-dire que pourquoi l'être humain ne se modifierait-il pas lui aussi? Pourquoi l'oreille humaine ne deviendrait-elle pas autre que ce qu'elle a été? Il n'y a aucune raison. Les hommes, mettons préhistoriques, ont bien évolué. Nous évoluerons bien aussi. Pourquoi est-ce que nous n'évoluerions pas? Alors notre oreille suivra, nos yeux ont suivi, etc., je suppose. Bon. Consacré à la composition, ça serait très intéressant. On pourrait faire beaucoup de choses, peut-être, à moins qu'on ne soit vraiment pas doué et qu'on n'ait pas envie de travailler, qu'il y ait des conditions morales, de... enfin, qu'on soit pas du tout en train d'écrire quoi que ce soit. Mais, même si on est bien en train d'écrire, il y a la croûte à gagner, il y a le travail de la maison à faire pour une compositeur femme, plus particulièrement. Il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte et qui vous boulottent votre temps. Il faut tout de même bien sortir un peu, on a tout de même bien de la famille à voir, on a tout de même un peu à lire, et on n'a jamais le temps de travailler pour soi. Alors, la plupart d'entre nous, c'est ce qui se passe, ou bien on est professeur, ou bien on est dans un orchestre, enfin tout ce que vous voudrez, mais le temps pour travailler, on le prend au moment des vacances. Autant dire qu'on se claque. N'est-ce pas? On se fatigue énormément à ce régime. Et dire qu'on peut réfléchir à ces graves problèmes, eh bien oui, on y réfléchit, mais ça reste, en ce qui me concerne tout au moins, toujours assez platonique, parce que j'ai beau y réfléchir, je n'aurai jamais le temps de réaliser un certain nombre de choses que je voudrais faire. Par exemple, je voudrais me mettre à faire de la musique 12 tons. Ben, c'est toute une technique, il faudrait que je m'y mette, il faudrait que je le travaille, il faudrait que je le fasse. Ben, j'ai pas le temps. Vous comprenez?
Et la condition même du compositeur dans la société vous paraît-elle satisfaisante? Pourrait-on faire quelque chose pour l'améliorer pour...
Oui, mais c'est tellement lié à d'autres questions que c'est très difficile d'en sortir, n'est-ce pas? Le compositeur n'est qu'une petite, une toute petite personnalité dans la vie d'un pays. Alors vous savez bien ce qui se passe pour les arts et toutes ces choses. Évidemment, c'est très difficile d'exiger pour le compositeur plus que l'on exige pour un sculpteur ou pour un peintre, qui sont, les sculpteurs, je crois, sont beaucoup plus malheureux que nous encore, beaucoup plus...
Mais je ne
beaucoup
crois
moins
pas.
Favorisés. Parce que nous avons la radio, nous avons tout de même là un débouché que nous n'avions pas jadis.
Oui, mais il existe, dans le domaine plastique, une prospection assez poussée, ne serait-ce que celle qui est faite par les directeurs de galeries.
Oui.
Beaucoup de directeurs de galeries... Je ne veux pas faire de publicité pour une galerie quelconque, mais enfin, oui. J'en connais qui se soucie vraiment de chercher des talents et de les sortir, de les pousser. Quel que soit l'intérêt personnel d'un directeur de galerie qui, par définition, consacre une partie de son activité au commerce, il n'en reste pas moins que le peintre en bénéficie.
Oui. Alors, je voudrais justement dire tout de suite que tout ça, c'était le côté négatif que je vous ai raconté là, évidemment. Mais il y a aussi le côté positif. Par exemple, si j'ai pu faire cette cantate, si j'ai pu faire une autre cantate encore l'année dernière, si j'ai pu faire un ballet, si j'ai pu faire tout de même, non pas des œuvres qui comptent, je n'ai pas cette prétention, mais tout au moins que j'ai pu consacrer un certain temps à ces travaux, c'est parce que tout de même l'État aide les compositeurs. C'est encore vers l'État qu'il faut se tourner pour trouver une possibilité de travail. C'est l'État qui fait quand même un certain nombre de commandes, qui donne des petites sommes à ça, avec ses possibilités, mais enfin qui nous donne tout de même la possibilité de faire des choses.
Mais croyez-vous qu'il soit possible de porter un remède à la situation actuelle? Comment pourrait-on arranger les choses?
C'est très difficile de répondre, parce que vous pensez bien que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes une petite personne dans un État. Eh bien, si l'État ne marche pas pour certaines autres raisons, il est bien certain que le compositeur suit. Il n'y a aucune raison. Dans un État qui ne marche pas au point de vue finance, pourquoi voulez-vous que les compositeurs soient favorisés, par exemple? N'est-ce pas? Quand on sait qu'on a un mal de chien à voter le budget et toutes ces choses, pourquoi voulez-vous que nous ayons une possibilité de nous en sortir?
Il me semble tout de même que l'activité du compositeur est telle que la société entière doit en profiter. Dans la mesure...
Mais la société en profite quand la radio, par exemple, donne un certain nombre d'œuvres. Il est certain que, grâce à la radio, on connaît tout de même un peu plus, je crois, la musique contemporaine qu'on la connaissait il y a, mettons, une trentaine d'années, peut-être. La grande préoccupation, ça a toujours été de livrer à temps et de faire à temps. Par exemple, si vous me demandez de parler des œuvres que j'ai écrites au début, en partant de Rome, par exemple, c'était évidemment les envois, pour commencer. À cette occasion, j'ai écrit des symphonies. J'ai écrit 2 symphonies. Bon, après, je voulais faire quelque chose avec voix. Évidemment, on m'a commandé ces œuvres. J'ai fait cette cantate de Éluard. Et puis ensuite, ça a été encore une autre commande, la cantate des Simplets. Puis le jour où on m'a demandé un ballet, j'ai fait un ballet. Mais il fut un temps, par exemple, voyez-vous, il y a, je crois, 5-6 ans, on m'a demandé de faire un opéra. Les Beaux-Arts avaient demandé à un certain nombre de compositeurs de faire des opéras. J'ai refusé à ce moment-là. Maintenant, je voudrais en faire un. Vraiment. Parce qu'il me semble que le maniement des voix sera plus facile maintenant que quand j'étais plus jeune. J'aimerais beaucoup faire ça. Puis j'ai écrit beaucoup d'autres petites choses... Des tas de pièces, évidemment, de circonstances, des morceaux pour les concours, par exemple, des conservatoires. On m'a demandé de faire des variations pour percussion, pour un concours. On m'a demandé des choses les plus biscornues. Puis j'ai fait de la musique de film, beaucoup aussi. Quelques-uns, enfin.
Elsa Barène, vous êtes professeur au conservatoire. Un professeur attend quoi de ses élèves? Et que peut-il leur communiquer?
Écoutez, je crois que pour attendre quelque chose des élèves... Il ne faut pas attendre de beaucoup d'entre eux. Il faut surtout, je crois, leur donner quelque chose. Et puis après, ils feront avec ce qu'on leur a donné. Mais en ce qui me concerne, j'ai une petite classe. Je n'ai pas une classe très importante. J'ai une classe de déchiffrage. Malgré ça, j'espère faire quand même beaucoup pour eux parce que je voudrais leur faire connaître le plus de musique possible. J'ai affaire à des pianistes, comme vous savez, n'est-ce pas? J'ai, je crois, 20 pianistes à peu près. Et je voudrais leur faire entendre, leur faire lire elles-mêmes le plus possible de toutes sortes de musiques. Que l'éventail soit large, qu'il soit très large pour elle.
Oui, ce qui rejoint votre, la préoccupation que vous aviez tout à l'heure, du contact.
Oui, 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 c'est un peu ça.
Et que peut-on insuffler à un élève?
Ah! Dans cette classe-là, on ne peut pas insuffler grand-chose. Que voulez-vous que je leur insuffle? Elles viennent lire. Ou bien elles lisent déjà très bien, ou bien je leur apprends à lire. Mais insuffler, ça ne fait pas partie vraiment de mon domaine. Là, ça serait outrepasser mes possibilités.
Ça fait toujours partie du domaine d'un professeur.
Oh, je leur insuffle. Elles l'ont déjà, l'amour de la musique, si elles sont là, n'est-ce pas?
Mais sur le plan, l'amour de la musique étant exclu, parce qu'il est donné ou il n'est pas donné.
Oui, c'est-à-dire que, évidemment, si on s'y prend de travers, elle finirait par détester de lire de la musique. Mais si on s'y prend bien, évidemment, ça dépend à la fois d'elle et de moi. Enfin, si elle récepte ou elle ne récepte pas, ça, je n'y peux tout de même pas grand-chose. J'ai des élèves qui réceptent très bien et qui aiment ce que je leur fais lire. Elles aiment bien Scarlatti, elles aiment bien les variations de Diabelli, elles aiment bien Prokofiev, elles aiment bien Messiaen, elles aiment bien Bartok, elles aiment bien tout ça. Puis d'autres qui me diront, je comprends rien à cette musique, même si on leur... Bon, faut pas que je dise ça parce qu'elle se reconnaîtra.
Est-ce qu'il est donné à un professeur de constater son action, les traces de son action personnelle sur un esprit?
Oui, il faut faire très attention, parce que les esprits sont tout de même malléables. Ah oui, il est certain qu'il faut faire très attention. C'est très grave, n'est-ce pas?
Mais je parlais des traces heureuses.
Ah, des traces heureuses, oui. Oh, oui, on les voit tout de suite. Oh, oui.
Est-ce que l'on voit celui que l'on a remis dans sa voix?
Je vous répète, vous savez, je n'ai pas une classe d'harmonie, je n'ai pas une classe de composition naturellement, je n'ai pas une classe à responsabilité majeure. Ce sont des pianistes, vous comprenez? Alors...
Mais de façon générale, sur le plan du professorat, est-ce qu'un professeur mesure son action, se dit oui, il est possible de faire beaucoup, est-ce que le bilan d'un professeur est encourageant ou décourageant?
Oh, ben ça, c'est selon, n'est-ce pas? Il est encourageant pour une proportion, pour un pourcentage probablement toujours assez modeste. C'est normal. On ne réussit pas à tous les coups, vous n'avez pas des sujets. J'imagine que c'est pareil dans n'importe quelle branche de l'enseignement. Sur une classe de 40 enfants à l'école primaire, combien y en aura-t-il qui aimeront le dessin ou qui s'intéresseront à l'histoire de France? Peut-être, je crois. Pas. Pourquoi voulez-vous que ce soit différent au conservatoire?
C'était un numéro de Dialogue et musique de Georges Charbonnier avec Elsa Barène, diffusé pour la première fois le 22 septembre 1954.